VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 13 janvier 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, mobilisation demain à Bamako au Mali contre les sanctions de la CEDEAO. Au Soudan, la police annonce la mort d'un général lors de nouvelles manifestations à Khartoum. Le comité du Nobel affirme que le premier ministre Abiy Ahmed porte la responsabilité de la sortie de la guerre en Éthiopie. La Russie avertit les États-Unis que toute sanction du président Vladimir Poutine aboutirait à une dégradation des relations entre Moscou et Washington. Cannes 2021 au Cameroun, Emmanuel Gelentap nous rejoint dans un instant en ouverture dans le journal des sports. Les places pour le prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations se négocient dès ce jeudi au Cameroun. Et c'est la poule A où est logé le pays hôte qui a ouvert le bal cet après-midi avec les matchs de la deuxième journée. Le journal de la CAN à Yaoundé avec Emmanuel Gelentap.
Bonsoir, bonsoir à tous. Pour cette deuxième journée, les équipes défaites lors de la première journée n'ont pas droit à l'erreur. C'est le cas du Burkina Faso qui affronte le Cap-Vert, victorieux de l'Éthiopie dimanche dernier. Les étalons seront conduits ce soir par le capitaine du jour, Issoufou Dao, accrédité d'un match peu satisfaisant contre le Cameroun. Mais Issoufou Dao garde la confiance pour le match de ce soir. Nous l'écoutons.
Du côté d'Abu Dhabi, j'avais le Covid. Et j'ai fait 6 jours sans m'entraîner. Et arrivé à la veille d'un match contre le Cameroun, et voilà. Que tu sois un monstre ou pas, et que le pays compte sur toi ou pas, et c'est très difficile de jouer un match à 100%. Et voilà, c'est le football. Je suis le capitaine à l'absence de Bertrand. Je pense que je sois le capitaine ou pas. Être un leader du groupe, c'est pas avoir le brassard de capitaine. Le leader, c'est celui qui parle beaucoup, et je fais partie de celui qui parle pratiquement beaucoup sur le terrain. Je donne beaucoup de consignes à mes collègues.
L'autre équipe qui doit obtenir au moins un point pour espérer poursuivre la compétition, c'est l'Éthiopie, qui a perdu mardi sur blessure l'un de ses meilleurs joueurs, Chemeles Bekele. Écoutons le milieu de terrain Mesut Moussa de l'équipe éthiopienne, qui reconnaît cependant que sa formation se présente sans une grande expérience face au Cameroun.
Yeah, for many of us, this big tournament is new. We do have many young players who didn't have that much experience for such kind of tournaments. As you mentioned, we were good in the qualifying stage. You know, in football, the biggest match is the next match. The Cape Verde match has passed away fast, so we are ready to face against Cameroon. And as a player, we were talking to prepare mentally, to respect every team, so we'll fight.
Le Cameroun n'a pas séduit lors du match d'ouverture. Le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, en est conscient. Pour faire une bonne performance face à l'Éthiopie, il y a des choses à changer.
Il faut qu'on voie certains détails qu'on n'a pas pu faire durant ces rencontres. Et après, c'est le coach qui est mieux placé pour pouvoir nous donner, pour pouvoir nous fournir des bons détails pour pouvoir faire un match costaud, le prochain match pour pouvoir faire un match costaud.
Cela dit, la première journée des matchs de poule a pris fin hier. 12 rencontres disputées pour 12 buts inscrits. Des matchs âprement disputés, soldés souvent sur des résultats étriqués. Un premier bilan que nous fait ici certains journalistes sportifs africains au micro de Élisée Oumpatine.
Spectacle, on le voit presque pas. À part le Nigeria quand même qui a fait un spectacle assez abouti. Toutes les autres équipes ont été, je dirais, en deçà. Et même, on peut aller plus loin, aucune équipe à part le Cameroun n'a marqué plus de 2 buts. Et le Cameroun a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça veut donc dire que soit on progresse en Afrique et qu'on est discipliné tactiquement, parce que ça a souvent manqué, ou soit il y a un problème d'efficacité et que les équipes n'arrivent pas à trouver le chemin des filets. Mais on attend quand même pour ces deuxièmes matchs d'autres prestations, parce que des matchs à un but, c'est pas assez.
Si sur le plan de l'organisation du Cameroun, est en train de relever le défi, parce qu'il y avait quelques craintes sur le plan du jeu pour poser des résultats qu'on a pu avoir. Franchement, on était en droit d'espérer mieux au regard de la richesse des effectifs présents au Cameroun. À part le match Nigeria-Égypte, qui nous a proposé un match de football d'un niveau élevé ou le reste. On a des matchs ternes sans grande inspiration.
Je crois que cette édition, si on a encore découvert une équipe comme la Sierra Leone, le petit poussé qui a titillé, secoué et branlé le tenant du titre, l'Algérie, ça n'a pas été facile. On a vu le Zimbabwe aussi bousculer, déranger le Sénégal. Donc ce sont des petites formations qui font véritablement la fête. On a vu aussi la Gambie pour une première édition qui a essayé quand même de décocher ses premiers 3 points sans rentrer dans l'histoire. Dans l'ensemble, je crois que les grandes équipes qui sont attendues n'ont pas tellement répondu, à l'exception de Nigeria. Mais lorsqu'on parle de Nigeria, ils sont capables du pire du meilleur, donc on attend de voir la suite de la compétition.
Toutes les sélections se sont préparées. Pour preuve, vous allez constater que la seule rencontre où nous avons enregistré 3 buts, c'est la rencontre inaugurale qui a opposé les Lions Indomptables face aux étalons du Burkina Faso. C'est la deuxième journée qui va commencer par décanter les situations. Les équipes qui vont composer très tôt le billet pour la seconde phase et qui le 8e de finale. Donc nous allons assister à de très belles rencontres lors de la deuxième journée parce que rien n'est encore décanté.
C'est ici que s'achève le journal de la CAN. Élisée Oupatine, Emmanuel Zubita, VOA Afrique.
À présent, la suite du journal. L'Union européenne va discuter aujourd'hui et demain des propositions européennes sur le soutien à apporter à la CEDEAO dans son nouveau bras de fer avec la junte malienne qui appelle les Maliens à manifester ce vendredi. La SECNA a signalé à Bamako une violation de leur espace par un avion militaire français. Le point avec Nani Talani.
Dans un communiqué publié mercredi soir, le gouvernement malien assure avoir dénoncé cette violation de l'espace aérien du Mali auprès des autorités françaises, alors qu'Air France a annoncé hier la suspension de ses liaisons avec Bamako. Le gouvernement malien décline toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de nouvelles violations, ajoute le communiqué. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avertit que l'Union européenne souhaite poursuivre ses missions militaires de formation au Mali, mais pas à n'importe quel prix. On a déjà suspendu l'aide budgétaire, a-t-il rappelé, confirmant la préparation de sanctions européennes contre la junte malienne. La Russie et la Chine ont bloqué mardi l'adoption d'un texte au Conseil de sécurité de l'ONU qui voulait soutenir les sanctions de la CEDEAO. Les militaires au pouvoir à Bamako appellent les Maliens à descendre dans les rues demain vendredi pour la défense de la patrie et dénoncer les sanctions ouest-africaines et les pressions internationales.
Le secrétaire général de l'ONU a réclamé aujourd'hui au gouvernement malien un calendrier électoral acceptable à la veille de manifestations dans le pays. Si un calendrier acceptable est présenté et si le gouvernement prend des mesures dans cette direction, il y aura une levée progressive des sanctions, a rappelé Antonio Guterres. 12 personnes sont en détention au Burkina Faso après de nouvelles arrestations pour des faits présumés de tentatives de déstabilisation des institutions, a annoncé aujourd'hui le ministre des Armées, Aimé Barthélemy Simporé. Depuis lundi, 15 personnes ont été interpellées, 2 officiers, 7 sous-officiers, 1 militaire du rang et 5 civils, a déclaré le général Simporé à l'issue du Conseil des ministres. 2 civils et 1 militaire ont toutefois été relaxés à l'issue des premières auditions, a précisé le ministre burkinabé. Le gouvernement du Nigeria a annoncé mercredi soir la levée de la suspension frappant Twitter. Depuis 7 mois, le réseau social américain a été un important outil de contestation sociale dans ce pays le plus peuplé d'Afrique. Nous reviendrons dans la partie magazine de cette édition sur la réhabilitation de Twitter au Nigeria. La centaine de Rwandais qui étaient arrivés ces derniers jours en République démocratique du Congo en affirmant fuir la vaccination anti-Covid dans leur pays ont été renvoyés ce jeudi au Rwanda. Ils s'opposaient à leur rapatriement, mais on a négocié avec eux toute la journée d'hier. On les a forcés à embarquer, a fait savoir un responsable de la chefferie Ntambuka, entité administrative située dans la partie sud de l'île d'Ijwi, sur le lac Kivu, frontalier de la RDC et du Rwanda. Au Soudan, la police a annoncé qu'un de ses généraux a été tué ce jeudi lors de nouvelles manifestations à Khartoum, quelques jours après l'ouverture d'un dialogue indirect sous l'égide de l'ONU. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Pour la première fois, la police, qui fait régulièrement état de dizaines de blessés dans ses rangs, a annoncé la mort d'un de ses généraux, précisant qu'il s'occupait de la protection des manifestants à Khartoum. Selon des témoins, les forces de sécurité ont tiré de nouveau des grenades lacrymogènes sur des milliers de protestataires qui dénoncent le régime militaire. Début janvier, le premier ministre Abdallah Hamdok a démissionné. Les généraux ne sont pas encore parvenus à renommer un gouvernement de civils comme ils l'ont promis. Lundi, Volker Perthes, émissaire de l'ONU à Khartoum, a lancé des entretiens individuels avant une deuxième phase de négociations directes ou indirectes. Il assure qu'il n'y a aucune objection de la part des militaires. Mais l'association des professionnels soudanais a rejeté complètement de tels pourparlers. Les forces de la liberté et du changement, principal bloc politique civil, ont demandé des garanties sur le fait que ce dialogue ne cherche pas à légitimer le nouveau régime né du putsch. Pour elles, pas de négociations, pas de partenariat avec l'armée. Le général Burhan assure qu'il veut conduire le Soudan vers des élections libres en 2023.
Le comité Nobel norvégien appelle à la responsabilité du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, pour mettre fin au conflit qui ravage la région du Tigré depuis fin 2020. Les précisions d'Eric Manirakiza.
La situation humanitaire est extrêmement grave et il n'est pas acceptable que l'aide humanitaire ne puisse y entrer suffisamment, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Madame Reiss Andersen. En tant que Premier ministre et prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed a une responsabilité particulière pour mettre fin au conflit et contribuer à instaurer la paix, a-t-elle affirmé dans un courriel à l'AFP. Des voix se sont élevées pour que le Nobel de la paix soit retiré à Abiy Ahmed, devenu chef de guerre, mais les statuts des Nobel ne prévoient pas une telle éventualité. La région du Tigré est aujourd'hui soumise, selon l'ONU, à un blocus de facto de l'aide humanitaire. Pour le directeur exécutif de l'ONG Human Rights Watch, c'est un exemple classique de punition collective. Cela ne punit pas les forces militaires tigréennes, cela punit la population au Tigré. Monsieur Abiy a envoyé en novembre 2020 l'armée fédérale au Tigré pour en destituer les autorités régionales qui contestaient son autorité. Couronné du Nobel de la paix l'année après sa prise de fonction, il avait initié la réconciliation avec l'Érythrée, des tentatives de médiation dans la région et des réformes visant à démocratiser l'Éthiopie.
Le parti ENADA, principale force politique en Tunisie, a décidé aujourd'hui de maintenir une manifestation prévue demain vendredi, jugeant politiquement motivée l'interdiction des rassemblements ordonnés par le gouvernement face à la reprise de l'épidémie de COVID-19. Annoncée dès le 8 janvier, la manifestation vise à marquer le 11e anniversaire de la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. Or, le gouvernement tunisien a annoncé mercredi l'interdiction de tous les rassemblements ou manifestations en public à partir de jeudi dans le cadre d'une série de mesures visant à endiguer la propagation de l'épidémie de COVID-19.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
11 djihadistes du groupe État islamique ont péri dans une série de frappes nocturnes menées par l'aviation russe en Syrie, a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les frappes ont été menées dans le désert de Al-Sakneh, état de mort dans le centre de la Syrie, et dans le désert de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Selon l'OSDH, environ 20 autres djihadistes ont été blessés, certains d'entre eux gravement. L'adoption de sanctions américaines contre le président russe Vladimir Poutine en cas d'agression de l'Ukraine franchirait une limite, a dénoncé ce jeudi le Kremlin après la présentation d'un projet en ce sens. Claire Morin-Gibou.
Des sanctions contre un chef d'État, c'est une mesure qui franchirait une limite. Ce serait équivalent à une rupture des relations, a dénoncé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Des sénateurs démocrates américains ont dévoilé hier un projet de sanctions qui vise à punir Vladimir Poutine et à apporter une aide financière à Kiev en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le projet de loi, intitulé « Défendre la souveraineté de l'Ukraine », prévoit des sanctions contre le président russe, le premier ministre Mikhaïl Mishustin, des responsables militaires et des entités du secteur bancaire russe. L'annonce de ce projet de sanctions extrêmement négatif, selon le Kremlin, intervient la veille d'une réunion à Vienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la troisième et dernière réunion pour tenter de désamorcer le risque de conflit en Ukraine.
Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'administration Biden, qui avait envisagé de réduire le soutien aux opérations militaires de la France en Afrique, a plutôt décidé de continuer la coopération américano-française en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Washington a revu sa copie pour réduire la tension liée au contrat de vente de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie, un contrat français de plusieurs milliards de dollars court-circuité par les États-Unis. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint ici à Washington le politologue à 14N Strategies, Michael Shurkin.
Je crois que du point de vue américain, ce qui est plus important, c'est simplement le renforcement des rapports entre les États-Unis et la France. Donc, même si les informations que les Américains fournissent à la France ne servent à rien, en fin de compte, et n'a aucun effet opératif, ça vaut la peine quand même parce que ça renforce les rapports avec la France, qui est dans les intérêts du pays. Donc, s'il y a un effet positif sur les opérations militaires françaises sur le terrain, tant mieux. Mais j'imagine que c'est un intérêt secondaire pour les États-Unis.
Effectivement, dans un article du Washington Post, vous dites que ce n'était pas dans l'intérêt, que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de couper une telle relation, une telle coopération militaire avec la France.
Non, à mon avis, ce n'est pas dans les intérêts. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a des crises partout. Il y a la crise ukrainienne avec la Russie. Il y a aussi la rivalité avec la Chine dans l'Indo-Pacifique. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de crises. Et si en général, c'est dans les intérêts des États-Unis d'avoir des alliés, des amis. Et le soutien de la France. Et donc, du point de vue des priorités des Américains, le destin du Mali n'est pas si important que ça. Et donc, c'est une faveur à la France, mais c'est une faveur qu'on fait parce qu'il faut avoir des bonnes relations avec la France, parce qu'on veut avoir la coopération de la France sur le plan diplomatique et militaire. Et c'est reste vrai que les Américains, les Américains peuvent bien faire des choses sans les Français, sans les Britanniques, sans les Canadiens, etc. Mais il vaut mieux avoir des amis que ne pas avoir des amis. Et surtout avec les crises qui sont là. Et en général aussi, par exemple, si vous regardez la politique française vis-à-vis la Russie et vis-à-vis la Chine, vous voyez que il y a très peu de différences, il y a très peu de distance entre la France et les États-Unis. Et la France sous Macron est assez dure avec la Russie, est dure avec la Chine. Mais ça peut changer. C'est-à-dire qu'il se peut que la France va décider d'être moins dure avec la Russie, moins dure avec la Chine, et peut choisir une politique plus douce, plus souple, plus gentille, et chercher une autre stratégie.
Michael Shurkin, politologue à 14N Strategies.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, le président militaire de la transition Mahamat Idriss Déby a annulé un acte qu'il a lui-même signé le 31 décembre 2021, nommant plusieurs personnalités à des postes de commandement. Ce décret qui vient d'être annulé a été vertement critiqué par les énarques formés à l'École nationale d'administration, qui se sentent lésés dans leurs droits et une partie de l'opinion qui qualifie ces nominations de ridicules. Le reportage de notre correspondant N'Djamena, André Kodmajinga.
Quand il y a un projet de nomination au ministère de l'administration du territoire, tous nos hommes politiques envoient ces militants là-bas pour demander des postes au détriment des agents du ministère de l'administration du territoire et des énarques formés dans une grande école de renommée comme l'ENA.
C'est le cri de cœur des énarques intégrés et mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire. Ils dénoncent sous l'anonymat ces décrets nommant des gens non qualifiés à des postes de commandement et interpellent le chef de la junte militaire signateur du dit document.
Nous disons unanimement non, nos droits sont bafoués. Il faudrait que ces gens-là changent, ils cessent avec leurs pratiques malsaines. On a écrit même au ministre de l'administration du territoire plus de 3 fois. Il a demandé la liste des énarques à 3 reprises. Le décret passe, on voit aucun énarque n'est nommé. Et nous disons au président du CMT de prendre l'affaire-là dans sa main.
Aujourd'hui, vous allez trouver les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, ce sont des militaires. S'ils veulent à ce que ces ministères deviennent le ministère de défense, ils n'ont qu'à nous dire. Nous allons quitter, aller ailleurs pour laisser ces ministères là aux militaires. On ne veut pas travailler dans cette condition.
Le mécontentement des énarques semble être entendu par les autorités de transition. 9 jours après la publication de ce décret contesté, le président du conseil militaire de transition recule. Il a annulé purement et simplement son acte. Pour Soustaine Bernoudi, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, que le Tchad soit gouverné autrement.
Le comble, c'est que quand vous lisez la liste, vous ne trouvez que des noms qui ont une consonance d'une région. C'est toute cette félonie là qui a amené le pays à l'enlisement. Aujourd'hui, on est en train de vouloir aller au dialogue. Il va falloir qu'on essaye de laisser les mauvaises habitudes qui fâchent. Parce qu'au travers de ce décret, on remarque qu'on fait la promotion des gens incompétents et ça réconforte nous, partisans du fédéralisme, dans notre posture. Parce qu'après 30 ans d'expérience d'un État unitaire décentralisé, c'est complètement un échec avec ces gens de nomination. Maintenant, il faut la fédération comme solution pour résoudre définitivement ce problème.
Les juristes estiment que ce décret ne devrait pas être pris puisque le poste de sous-préfet a été supprimé en 2018.
En principe, dans un pays normal, le premier ministre aurait démissionné ou on devait le faire démissionner parce que c'est très grave, n'est-ce pas, de faire signer un décret avec aucun objet. Et c'est dommage pour l'administration qui, finalement, est tellement légère.
Docteur Sitak Yombatina Beni, ancien chercheur à l'ENA, l'École nationale d'administration.
Dans les ordonnances qui régissent, n'est-ce pas, les collectivités territoriales décentralisées, il faut une loi. À ce jour, il n'y a pas une loi qui a créé ces unités administratives. Et donc, tant vous n'avez pas créé, n'est-ce pas, les unités administratives par une loi, vous ne pouvez pas nommer des gens. Donc, que cela échappe à toute une administration, depuis le ministère de l'administration jusqu'à la présidence de la République. Et c'est plus tard qu'on se rend compte, finalement, que ce décret n'aurait jamais dû exister. C'est pour ça qu'on l'annule. L'administration ne peut pas dire que j'ai fait des erreurs. Non. Et donc, maintenant, ceux qui se sentent lésés, n'est-ce pas, par rapport à cet acte-là, à eux, n'est-ce pas, de saisir les juridictions compétentes pour justement rentrer dans leurs droits.
Pour beaucoup, ce décret remet en cause la note circulaire du premier ministre de transition selon laquelle, dorénavant, toute proposition de nomination doit obéir à des critères de compétence, d'expérience et d'équité. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Nigeria, les autorités fédérales ont mis fin à l'interdiction de Twitter après plus de 7 mois de suspension. Twitter avait supprimé un message du président Muhammadu Buhari qui menaçait de punir les sécessionnistes. Le reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Au Nigeria, les utilisateurs des réseaux sociaux ont inondé Twitter depuis ce matin, réagissant à la levée de la suspension en utilisant des hashtags tels que « Twitter is back » ou encore « Twitter est de retour ». Le gouvernement a annoncé mercredi soir qu'il allait lever son interdiction sur les opérations du géant des médias sociaux. La réaction d'un entrepreneur dans le numérique, Adamo Garba.
Le fait qu'ils vont ouvrir leur bureau au Nigeria, recruter un staff local et payer des taxes, cela signifie qu'à chaque fois qu'il y aura un problème concernant de fausses informations, Twitter ne va pas utiliser sa plateforme pour publier de telles informations, sachant bien qu'ils seront une victime. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Twitter a accepté des conditions du gouvernement nigérian, notamment l'ouverture d'un bureau local, le traitement des opérations des problèmes fiscaux et la gestion des publications interdites conformément à la loi nigériane. En juin 2021, les autorités avaient annoncé la suspension de Twitter dans le pays, accusant le géant de la technologie d'autoriser l'utilisation de sa plateforme pour des activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité du pays. Le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Lai Mohamed.
Nos conditions sont claires. Premièrement, pour faire des affaires ici, ils doivent être accrédités comme une entreprise nigériane. Deuxième condition, ils doivent se faire enregistrer officiellement. Troisième, ils doivent cesser d'autoriser l'utilisation de leur plateforme pour des activités qui peuvent affecter le bien-être du Nigeria.
La suspension est intervenue des jours après que Twitter a temporairement suspendu le compte du président Muhammadu Buhari pour avoir enfreint sa politique en matière de comportement abusif après un tweet dans lequel M. Buhari menaçait de punir les sécessionnistes à la suite d'attaques contre des biens publics dans le sud du Nigeria. Cette interdiction avait suscité des réactions de nombreux utilisateurs de Twitter. Le président du groupe des Nigériens concernés, Deji Adeyinju, salue le retour du média social, mais condamne la décision du gouvernement fédéral.
L'interdiction de Twitter, tout d'abord, était un acte antidémocratique. C'était inconstitutionnel et n'avait aucune base parce que la Constitution prévoit aux Nigériens le droit de s'exprimer librement. Ils ont aussi le droit d'opinion et de recevoir des informations.
La suspension avait obligé de nombreuses personnes au Nigeria à se tourner vers les réseaux privés virtuels VPN pour pouvoir accéder à la plateforme en ligne. Malgré l'utilisation massive des VPN, la société civile et beaucoup d'autres Nigériens estiment que l'interdiction était un mauvais signe aux investisseurs étrangers et nuisait aux petites entreprises utilisant Twitter comme source de revenus. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Les États-Unis et la Russie se sont rencontrés pour des entretiens à Genève cette semaine pour parler de questions de sécurité concernant notamment l'Europe. L'Union européenne, qui n'était pas présente aux discussions, a exprimé sa frustration. Un reportage d'Henri Riguel à Londres, relaté par Nathalie Barge.
La Russie, qui a placé 100 000 soldats près de la frontière avec l'Ukraine, se plaint d'un renforcement militaire de l'OTAN en Europe de l'Est et a mis en garde contre les dangers. Avec la montée des tensions, Washington et Moscou se sont rencontrés à Genève cette semaine, mais l'Union européenne en a été exclue à sa plus grande frustration. Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères.
Sur ce dialogue, il n'y a pas seulement deux acteurs. Il n'y a pas que les États-Unis et la Russie. Si vous voulez parler de sécurité en Europe, les Européens doivent faire partie des discussions.
Selon Liana Fix, analyste au Fonds Marshall allemand, l'Union européenne a déjà pris du retard dans ses discussions.
Le problème ici est que l'Union européenne n'a pas été formellement impliquée dans les pourparlers en 2014 lorsque la crise ukrainienne a commencé. À l'époque, nous avions l'Allemagne et la France au pourparlers de Normandie et aucun officiel européen. Au sein de l'Union, la question est de savoir qui est le plus puissant, les États membres ou l'institution.
La France mène une poussée européenne motivée par les inquiétudes concernant l'engagement des États-Unis envers l'OTAN. Paris estime que le président russe Vladimir Poutine tente délibérément de contourner l'Union européenne. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères.
Oui. Il y a peu de considération sur l'Union européenne et qu'il est tout à fait déterminé à essayer de mettre des coins dans l'unité européenne qui est maintenue et qui est, je crois, solidifiée.
Petro Burkowski, chercheur à la Fondation des Initiatives démocratiques.
La Russie utilise ces pourparlers pour détruire la confiance entre les États-Unis et les partenaires européens et essaye de démontrer que les Américains sont prêts à discuter de sa sécurité et de sa politique en Europe derrière les partenaires européens.
Sans sa force militaire, l'Union européenne n'est peut-être pas prise au sérieux par Moscou, mais elle a un rôle à jouer selon Liana Fix.
Alors que l'Union européenne et les États-Unis pensent à des sanctions économiques envers la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, c'est l'Union qui devra livrer un paquet de sanctions économiques et les accords de tous les États membres.
À la suite des pourparlers entre l'OTAN et des responsables russes mercredi, les États-Unis ont déclaré que les alliés transatlantiques étaient unis. Wendy Sherman, sous-secrétaire d'État américaine.
Je pense que l'une des choses que la Russie a faites, à laquelle elle ne s'attendait probablement pas, est d'avoir réuni toute l'Europe et les alliés de l'OTAN pour partager les mêmes principes, la même ambition, les mêmes espoirs et engagements diplomatiques.
21 pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN et malgré la frustration, les analystes s'accordent à dire que l'alliance reste le fondement de la sécurité européenne.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Buon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production.